voici le journal avec Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Comment nourrir 10 milliards de personnes sans ravager la planète? Question cruciale pour la survie de l'humanité. Question au cœur de discussions qui démarrent aujourd'hui à Genève. Le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, s'y réunit pendant une semaine. L'objectif est d'arriver à un texte commun, Jérémy Lanche.
Il ne s'agit pas du sixième rapport d'évaluation du GIEC, ce document de plusieurs milliers de pages prévu pour 2022, mais le texte qui doit être adopté est tout de même très attendu. Il doit se concentrer sur les liens entre le réchauffement climatique et la dégradation des sols et ses conséquences pour la sécurité alimentaire. L'enjeu est crucial, il est également d'actualité au moment où la déforestation explose au Brésil pour faire place à la culture du soja et à l'élevage, et alors que des incendies ravagent les forêts de l'Arctique, de l'Alaska à la Sibérie. Une centaine de scientifiques venus de 52 pays ont participé au rapport et ce n'est pas un hasard si au même moment, à 60 km de là, se tient un sommet des jeunes pour le climat. 450 personnes venues de toute l'Europe, dont la militante Greta Thunberg. Tous se retrouvent dès lundi à Lausanne pour définir leur propre stratégie face à l'urgence climatique. Une manifestation est prévue vendredi prochain.
Pékin estime que les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump ne sont pas constructifs. Le président américain a en effet annoncé des sanctions hier soir, des surtaxes sur 300 milliards de produits chinois importés aux États-Unis, 300 milliards de dollars de produits. Tous ces produits chinois aux États-Unis serait alors surtaxé. Cette annonce a immédiatement fait réagir les marchés financiers. Le pétrole a terminé en recul de près de 8% à New York hier. Les principaux indices à Wall Street ont fini dans le rouge également cette nuit. Donald Trump qui remet également en cause les traités militaires passés avec la Chine et avec la Russie. Les États-Unis sortent ainsi officiellement aujourd'hui du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Il avait été signé en 1987 et il prévoyait d'éliminer tous les missiles à moyenne portée détenus par les armées de toutes ces grandes puissances. Faut-il maintenant craindre un réarmement général? Les Russes, en tout cas, se préparent à toute éventualité, Jean-Didier Revoin.
Pour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, toutes les options sont sur la table, y compris celle de déployer des missiles nucléaires de portée courte ou intermédiaire plus près du territoire des États-Unis. Le retrait américain du traité interdisant la production et l'utilisation de telles armes, signé en 1987 par Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, permet théoriquement aux États-Unis de déployer leurs missiles près des frontières russes, en Pologne ou dans les pays baltes par exemple. Une évolution qui, de l'aveu de Sergueï Ryabkov, contraint Moscou à prendre des mesures, mais des mesures qu'il n'a pas souhaité évoquer. Étant donné qu'il ne s'agit à l'heure actuelle que de conjectures, le vice-ministre ne voudrait pas que ces déclarations puissent être interprétées comme une menace par les ennemis potentiels de la Russie. Moscou reste néanmoins déterminé à se défendre en cas de besoin. Il y a quelques mois, Vladimir Poutine avait affirmé qu'en cas d'attaque de missile, la réponse de la Russie viserait non seulement le site à l'origine de l'attaque, mais aussi les lieux où la décision de lancer l'attaque a été prise.
Jean-Didier Revoin depuis Moscou pour France Culture. Il va quitter le port de Marseille où il était arrivé en début de semaine. L'Océan Viking, ce navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, ce navire s'apprête à prendre la mer pour aller secourir des migrants en Méditerranée. Ce bateau humanitaire remplace en fait l'Aquarius qui avait perdu il y a 7 mois maintenant son pavillon sous la pression du gouvernement italien. Sur le quai à Marseille, Thibault Lefebvre a pu interroger Sophie Beau, la directrice générale de SOS Méditerranée, quelques jours donc avant le grand départ.
On est émus, on est impatients de partir aussi parce que l'attente a été extrêmement longue, les préparatifs compliqués, difficiles. C'était pas du tout gagné parce qu'il y a vraiment des logiques d'État qui sont à l'encontre du sauvetage en mer, on le voit bien, et c'est notamment l'attitude de l'Italie depuis 2 ans. Il y a quand même des avancées dans les discussions entre États européens. Il y a en ce moment des personnes qui quittent la Libye, on a entendu parler de beaucoup de naufrages récemment. Donc il va y avoir des sauvetages, c'est sûr, et on va se retrouver directement dans cette situation où il va falloir trouver un port de débarquement. Donc on va tester, si vous voulez, la solidité de ces discussions diplomatiques et on espère que ça va aboutir plus formellement à un accord pour avoir un mécanisme prévisible, coordonné entre les États européens, parce qu'il faut bien comprendre que l'Italie ou Malte ne peuvent pas être les seuls pays en première ligne à supporter la charge de cet afflux de personnes rescapées de la mer.
Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée. Le français Félix Dorfin n'est plus condamné à mort en Indonésie, mais à 19 années d'emprisonnement sur décision d'un tribunal ce matin. Il avait été condamné en mai dernier pour trafic de drogue. Pour les mêmes faits, un autre français, Serge Atlaoui, est lui toujours dans le couloir de la mort en Indonésie. Nice, Marseille, Amiens, Poitiers, Orléans, Paris. Les appels à se rassembler demain pour rendre hommage à Steve Maya Canisso se multiplient. Steve Maya Canisso, cet animateur mort dans la Loire à Nantes le soir de la fête de la musique le 21 juin dernier après une charge de la police. À Nantes, en revanche, demain, la préfecture de Loire-Atlantique a interdit toute manifestation dans le centre-ville. Elle craint en effet des violences. Un adjoint à la ville de Nantes, Aymeric Sasso, regrette cette interdiction. Il demande au contraire un lieu et un temps pour un hommage. C'est une décision très attendue par les opposants aux compteurs électriques Linky. Ils évoquent des dangers sur la santé à cause des ondes électromagnétiques. Ils parlent aussi d'un dispositif qui viole leur vie privée. Saisi par 430 personnes sur ce sujet, le tribunal de Nanterre doit se prononcer aujourd'hui pour ou contre ces compteurs Linky. Alors qu'en début de semaine à Tours, la justice avait donné raison à 13 plaignants électrosensibles, la décision aujourd'hui pourrait donc s'inspirer d'une jurisprudence naissante, Maxime Fayol.
Enedis a déjà été condamné à 4 reprises par la justice à retirer des compteurs Linky ou à renoncer d'en installer par respect du principe de précaution. À chaque fois, les plaignants et leurs avocats ont fourni des certificats médicaux qui attestent des maux de tête ou bien de picotements. Pour eux, l'origine est très claire, ce sont les ondes électromagnétiques du Linky qui sont en cause. Et à chaque fois, la justice a reconnu le lien de causalité directe entre le compteur et ses troubles physiques. Enedis conteste particulièrement ce point et interjette appel à chaque décision, mais se conforme néanmoins à la sanction et retire ses compteurs Linky. Si l'argument médical est pour l'instant retenu par certaines juridictions, les avocats restent prudents sur les chances de succès de l'audience d'aujourd'hui. Ils continuent surtout de se battre sur un autre volet, celui de la protection de la vie privée. Il faut dire que ces compteurs intelligents transmettent des informations personnelles et cela pose problème pour de nombreux plaignants. Ils représentent d'ailleurs 2/3 du contentieux contre Enedis. Pour l'instant, toutes les procédures qui ont été traitées l'ont été en référé et aucun tribunal n'a voulu trancher cette question en urgence. Il faudra intenter de nouveaux recours au fond. Les avocats et les plaignants s'y préparent.
Maxime Fayol. L'incendie qui a ravagé près de 500 hectares au sud de Nîmes cette semaine est d'origine criminelle. Le parquet le précisait hier soir. 70 pompiers sont encore sur place ce matin pour empêcher un éventuel réveil des flammes. Quelques averses sont encore attendues sur l'est de la France aujourd'hui, vendredi. Le ciel partout ailleurs sera changeant entre nuages et soleil, mais toujours sec avec des températures estivales. Ce matin, il fait 21 degrés à Lille, 23 à Rennes, Paris, Strasbourg, 24 à Lyon et déjà ce matin, 29 degrés à Marseille.